Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, le 11 mai 2019, je vais vous accompagner pendant 60 minutes. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par les journaux présentés par Madame Erna. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers amis, voici le bulletin de l'information. Tout d'abord, les titres de l'actualité. La Bourse d'études indonésiennes sur les arts et la culture en 2019 est participée par trois nouveaux amis. Le président Joko Widodo convaincu que l'Indonésie pourrait devenir le quatrième pays de la plus grande économie du monde en 2045. Le président a préparé trois mesures pour accueillir les 100 ans de l'Indonésie libre. Bengkulu est prête à organiser le tour de Bengkulen. L'exposition du Pacifique vise à offrir l'accès au marché entre l'Indonésie et le Pacifique. Voici le bulletin complet. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie a devenu organisé une bourse d'études indonésienne sur les arts et la culture en 2019. Cet événement qui se déroulera du 4 mai au 16 août a pour objectif d'introduire le potentiel de l'Indonésie et de faire la promotion par l'intermédiaire des ambassadeurs de jeunes étrangers ont reçu une bourse d'études indonésienne sur l'art et la culture. Aziz Nur Wahyudi, le directeur de la diplomatie publique au ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, a déclaré à RRI, récemment à Jakarta, que trois nouveaux amis indonésiens avaient participé à la bourse d'études indonésiennes sur les arts et la culture. Ils viennent du Portugal, de la Gambie et de la Colombie.
Pada tahun ini kita mempunyai tiga sahabat baru dari
cette année, nous avons trois nouveaux amis de trois pays qui ont participé pour la première fois. Ils viennent du Portugal, de la Gambie et de la Colombie d'Amérique latine. Le deuxième qui le distingue de l'année dernière, ce programme ne se terminera pas à Jakarta, mais dans la ville Banyuwangi, parce que ce programme existe dans six villes. L'orientation est donc effectuée à Jakarta. Ensuite, nous les placerons où nous étendrons dans six villes, à savoir Jogja, Banyuwangi, Padang, Kutai Kartanegara, Makassar et Bali. Cette année, 72 jeunes de 40 pays ont participé au programme de la Bourse d'études indonésiennes sur les arts et de la culture. Sur ces 72 personnes, 6 d'entre elles venaient de plusieurs régions d'Indonésie, à savoir Sulawesi du Sud, Papouasie occidentale, Kalimantan orientale, Yogyakarta, Nusa Tenggara orientale, Java Central. Ils étudieront la sagesse locale, étudieront les excursions dans les sites historiques et touristiques et participeront à diverses activités de promotion culturelle et touristique dans leurs régions respectives. Le président indonésien Joko Widodo a ouvert la mise en œuvre de la délibération de la planification du développement national 2019 à Jakarta jeudi. Dans sa direction, le chef de l'État a déclaré que l'Indonésie avait la grande opportunité de devenir la quatrième plus grande économie du monde en 2045. bien qu'il y ait de nombreux défis à résoudre. Comme l'a rapporté l'Agence nationale des nouvelles de la radio, le président a ajouté « De nombreux pays sont pris au piège dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires car ils ne peuvent pas résoudre les gros problèmes qui existent dans leur pays. Par conséquent, les problèmes existants doivent être résolus immédiatement. » Les principales questions soulevées par le président Joko Widodo sont entre autres les infrastructures. Le président a demandé aux gouverneurs, aux régions et aux maires de participer à la résolution des problèmes du secteur des infrastructures. Le président Joko Widodo a préparé 3 initiatives pour résoudre les problèmes du pays après 100 ans de liberté de l'Indonésie, notamment pour que l'Indonésie ne soit pas incluse dans le piège du piège à revenus moyens, à savoir l'égalité des infrastructures, la réforme bureaucratique et le développement des ressources humaines. Lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence sur la planification du développement national, Musrembang Nas, en 2019, jeudi à Jakarta, le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie avait une grande opportunité de devenir le pays le plus puissant du monde en termes d'économie, même au 4e ou 5e rang en 2045. Ce n'est pas facile pour réaliser ce plan. Il y a de nombreux défis qui doivent être résolus. Le président Jokowi a souligné 3 mesures visant à régler le problème des 100 années d'indépendance de l'Indonésie, à savoir l'égalité des infrastructures, la réforme bureaucratique et le développement des ressources humaines. Le gouvernement de la province Bengkulu organisera un événement, le Tour de Bengkulen, comme l'un des ordres du jour pour réussir l'année de visite touristique dans cette région en 2020 sur le thème Merveilleux Bengkulu 2020, cité par Antara, le secrétaire régional de la province de Bengkulu, Gotri Suyanto, a déclaré récemment que l'activité qui se tiendra en juin sera participée par les athlètes nationaux et les athlètes étrangers. Il a expliqué que cette activité serait un événement stratégique dans la promotion de Bengkulu auprès du monde entier, car il était prévu que les participants viennent de l'étranger, entre autres la Turquie, la Russie, le Vietnam, le Brunei Darussalam, le Singapour et la Malaisie. La mise en œuvre de l'exposition sur le commerce, les investissements et le tourisme du Pacifique initiée par le gouvernement indonésien, vise à ouvrir l'accès au marché de produits de qualité supérieure en Indonésie et dans les pays de la région du Pacifique. Par le biais d'une exposition organisée à Auckland, en Nouvelle-Zélande, du 11 au 14 juillet 2019, l'Indonésie souhaite accroître sa présence et son influence dans le Pacifique. Selon l'ambassadeur d'Indonésie en Nouvelle-Zélande, Tanto Wiyahya, géographiquement, l'Indonésie fait partie intégrante de la communauté du Pacifique car ses 5 provinces sont situées dans l'océan Pacifique. La population de l'Indonésie comprend également des races mélanésiennes en Papouasie occidentale et à l'est de Nusa Tenggara, ainsi que des races polynésiennes aux Moluques et au nord des Moluques. La présence de l'Indonésie dans le Pacifique élargira le marché de cette région qui possède 30 millions d'habitants et le produit intérieur brut s'élève à 1,2 trillion de dollars américains. Chers amis, c'était le bulletin de l'information de la Voix de l'Indonésie, Jakarta.
Voice of Indonesia.
Chers amis, voici les infos de l'Indonésie. Tout d'abord, l'info de Jakarta. L'exposition Gelar Batik Nusantara 2019 qui s'est tenue à Jakarta Convention Center, Jakarta, a ciblé 13 000 visiteurs pendant 5 jours, du 8 au 12 mai 2019. Le président du comité de gelar batik Nusantara, Wida D. Herdiawan, a déclaré mercredi que l'événement auquel ont assisté 250 personnes a ciblé la transaction d'un montant de 27,5 milliards roupias. Divers artisans de Java et d'autres régions telles que Sumatra, Ambon et d'autres ont assisté à l'exposition. L'exposition Gelar Batik Nusantara 2019, initiée par la Fondation Indonésienne Batik, a pour thème Lestari Tak Berbatas, soit durabilité sans fin, pour illustrer le fait que le batik s'est développé dans diverses régions et qu'il est plus dynamique. Ensuite, l'info de Bengkulu. Un certain nombre de résidents du village Sumber Urip de la région Rejang Lebong dans la province Bengkulu ont développé indépendamment le potentiel des sources thermales dans la région du village dans l'espoir de devenir une nouvelle attraction touristique dans le district. Supardi Effendi, 45 ans, le responsable du site des ressources chaudes de Grojogan Sewu dans le village Sumber Urip, le sous-district Selupurejang, a annoncé mercredi que cette attraction touristique venait juste d'ouvrir ses portes il y a 11 mois. Il a dit que l'emplacement des bains d'eau chaude provenant du volcan du Mont Kaba avait attiré de nombreux visiteurs de villes et de districts Bengkulu et de visiteurs extérieurs à la région car il est supposé guérir un certain nombre de maladies, telles que les maladies de la peau et les accidents vasculaires cérébraux. La dernière, l'info de Kalimantan Central. La direction régionale du conseil de la mosquée indonésienne à Kalimantan Central a organisé un concours de Kampung Ramadan Berkah 1440 Hijri dans 40 villes ou régions en province préparé pour accueillir la migration de la capitale et du centre du gouvernement de la République d'Indonésie. Sugianto Sabran, président du conseil d'administration de la mosquée indonésienne du Kalimantan Central, a déclaré qu'un tel concours avait lieu dans toutes les régions et villes du Kalimantan Central afin de remplir le temps d'alourissant avec les activités positives et de se rapprocher de Dieu. Il a ajouté que Kalimantan Central poursuivait la cartographie des mosquées, des langars et des moussolas en relation avec la nécessité de renforcer les installations et l'infrastructure de chacun de ces gestionnaires. Simultanément, un inventaire des opportunités et du potentiel de tous les pèlerins et de l'environnement de la mosquée a été réalisé afin de développer le potentiel des différents aspects. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 11 mai. Tout d'abord, le premier émetteur de télévision s'est opéré. Le 11 mai 1939, pour la première fois, un émetteur de télévision est opéré dans la ville Berlin, en Allemagne. Depuis lors, le monde a commencé à reconnaître les outils de communication visuelle. La chaîne de télévision a été baptisée NIPCO, en hommage à Paul NIPCO, célèbre scientifique allemand et inventeur des équipements de télévision. Le grand rôle de NIPCO dans les inventions télévisées est lié à sa découverte de la conversion des images en ondes et de leur transformation en images. Ensuite, l'incendie au stade Bradford City. C'est l'un des plus grands incidents d'incendie de l'histoire du football anglais. L'incendie s'est produit le 11 mai 1985 à Bradford City dans le stade Valley Parade. Lestat est réputé pour son style ancien et ses matériaux en bois variés. Parce que la plupart des stades et même des doigts de stades sont en bois, le feu provenant des mégots d'un spectateur qui a jeté. Par inadvertance s'est rapidement propagé et a provoqué un grand incendie. 56 personnes sont mortes et 450 personnes ont été blessées dans l'incendie. Le dernier, l'extension de l'accord de non-prolifération nucléaire sans condition. L'accord de non-prolifération nucléaire est un accord limitant la possession d'armes nucléaires. Cet accord a été signé le 1er juillet 1968. Cet accord a été suivi par la plupart des pays souverains, à savoir environ 187 pays, bien que deux des sept pays dotés de l'arme nucléaire et un pays susceptible de l'être en ratifié cet accord. Le 11 mai 1995, à New York, aux États-Unis, plus de 170 pays ont accepté de maintenir cet accord indéfiniment et sans condition. Cet accord repose sur trois piliers principaux. La non-prolifération, le désarmement et le droit d'utiliser la technologie nucléaire à des fins pacifiques. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Sepasang sepatu selalu bersama, tak bisa bersatu kita. Mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena jam, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi saling satu pun kita tak berdaya. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Bye.
Voilà la chanson de Toulouse intitulée Sepatu ou en français Les Chaussures. Vous êtes toujours avec nous à l'onde courte de 3,3 de 5 kHz et vous pouvez écouter notre émission sur le site de www.voynews.id. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec Mon Indonésie et un petit titre, les petites et moyennes industries de batik, fer de lance de l'économie démocratique. Le ministère de l'Industrie continue de contribuer aux efforts visant à préserver le batik Nusantara et encourage le développement de l'industrie nationale du batik afin qu'elle soit plus compétitive à l'échelle mondiale. Cette mesure est prise pour que le batik qui fait partie du patrimoine culturel indonésien et soit reconnu par l'UNESCO comme patrimoine mondial immatériel de l'humanité, soit de plus en plus reconnu dans toutes les couches de la société, dans le pays et même dans le monde. Le ministre de l'Industrie Erlangga Hartarto, lors de l'inauguration de l'exposition Gelar Batik Nusantara 2019, au Centre de Congrès de Jakarta, a souligné que le batik était devenu une identité nationale de plus en plus populaire. L'industrie du batik joue également un rôle important dans l'économie nationale et contribue aux devises du pays, car elle dispose de grands marchés d'exportation comme au Japon, aux États-Unis et en Europe. Selon Erlangga, l'industrie du batik est également l'un des secteurs qui crée de nombreux emplois. L'industrie du batik est donc un secteur à forte intensité de main-d'œuvre. Le nombre de travailleurs absorbés dans le secteur en amont, tels que le tissage et la teinture dans l'industrie du batik, s'est élevé à 628 000 personnes. Cependant, les travailleurs de l'industrie du batik représentent entier, soit 212 000 personnes. Lors de l'ouverture de Gelar Batik Nusantara 2019 et en pour thème Lestari Tak Berbatas, soit durable illimité, Erlangga Hartarto a également encouragé le secteur du batik à devenir un secteur respectueux de l'environnement. L'industrie du batik a commencé à introduire de nouvelles matières premières telles que la fibre de rayon ou à utiliser des graines de coton afin que le nouveau matériau produise des produits plus attractifs et compétitifs. De plus, l'utilisation de colorants naturels dans les produits de batik est également une solution pour réduire l'impact de la pollution et même faire du batik un produit écologique à valeur économique élevée. Cependant, le directeur général des petites et moyennes industries au ministère de l'Industrie, Gati Wibawaningsih, a expliqué que le gouvernement se rend compte que le marché des produits artisanaux indonésiens est en croissance. Par conséquent, les activités de la petite et moyenne industrie, IKM, y compris IKM de batik, deviennent l'un de fer de lance d'une économie populiste résistante à la crise économique mondiale. À cette fin, le ministère de l'Industrie continue de développer les IKM au moyen de divers programmes, notamment en renforçant les compétences en ressources humaines, en améliorant la qualité des produits, en normalisant en facilitant l'utilisation des machines ou d'équipements, en promouvant et en exposant le batik en Indonésie et à l'étranger. Gati Wibawaningsi a ajouté que pour accroître l'accès au marché du KM de batik, le ministère de l'Industrie dispose d'un programme e-mart et KM qui coopère avec plusieurs marchés. Grâce à ce programme e-smart, les produits d'artisanat, de bijouterie et de batik sont encouragés à entrer sur le marché en ligne, ce qui lui permet d'avoir une plus grande portée car il est accessible aux consommateurs de différentes régions. Cher ami, c'était mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde, vous venez d'écouter la chanson de Mita intitulée « Denganmu Cinta » qui signifie « Avec toi mon amour ». Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis, nous continuons notre émission avec le magazine culturel ayant pour titre « Manger des œufs de poisson mimi, la tradition des citoyens de Kendal d'accueillir le Ramadan ». Actuellement, les musulmans du monde entier jeûnent pendant le mois sacré du Ramadan. L'Indonésie, qui est composée de diverses régions, possède des aliments que l'on ne peut trouver que dans le mois de Ramadan, tels que des œufs de mimi que l'on ne trouve que dans la région Kaliwungu, Kendal, Java Central. Les œufs mimi sont des œufs de poisson mimi, une sorte de galoucha à la carapace dure, large et plate. On obtient facilement le mimi dans les eaux de la mer de Java autour des eaux de Kendal. Les mimi pondent des œufs en bouilli avec des épices et ensuite servis avec de la noix de coco râpée et des épices chaudes. Le mode de présentation est également unique. Les œufs de poisson mimi sont grattés de la coquille, puis mélangés à de la jeune noix de coco râpée à laquelle ont été ajoutées des épices. C'est délicieux. Les œufs mimi ont une couleur jaune-orangée presque identique à celle des œufs de poisson volant que l'on trouve souvent dans le sushi, un aliment japonais. Les œufs mimi sont comme les œufs de crabe. Cet aliment est typique car il ne peut être trouvé avant le mois de Ramadan et n'est pas vendu les autres jours. Les commerçants le vendent pour 5000 rupiah pour un plastique des œufs, alors qu'une paire de poissons mimi est vendue 50 000 rupiah. Les œufs mimi peuvent être achetés dans la cour de la grande mosquée Kaliwungu, parce qu'un jour avant le jeûne, la tradition tukuder a toujours lieu à cet endroit, qui sert des produits de la mer transformés, dont l'un est le poisson mimi. Pour les résidents locaux, manger des œufs de mimi est un menu obligatoire avant d'entrer le mois de jeûne. Beaucoup pensent que ce n'est pas parfait si jeûner en Ramadan ne profite pas des délicieux œufs mimi typiquement Kendal. L'œuf mimi peut être interprété comme un partenaire durable, comme la légende de Mimi et Mintuno qui est toujours ensemble jusqu'à ce qu'ils sont les grands-parents qui traversent la vie. Cher ami, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Semua suara.
Chers auditeurs, voilà la chanson de Lala Carmela, intitulée « Satu Jam Saja ». Cette chanson raconte de quelqu'un qui veut bien rencontrer son amour. Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui fournit des informations sur les événements intéressants en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur et en beau titre Mountable, la solution pour les signaux manquants en montagne. Quatre académiciens de l'Université d'Indonésie, à savoir Valda Orkidea Zahwa, Yuda Dwi Putra, Kalamullah Ramli, Johan Suryanto, a réussi à créer un outil qui pourrait être une solution pour communiquer en montagne. L'outil a été nommé Mountable. Mountable est un système de surveillance, de communication et d'information dans les zones sans signaux cellulaires et sans Internet, en particulier dans les zones d'escalade. Cette technologie est le seul fournisseur de services de sécurité en escalade en Indonésie qui utilise la technologie. Grâce à cette technologie montable, les quatre académiciens de l'Université d'Indonésie ont remporté la médaille d'or au Festival international des inventions indonésiennes 2019. Fondamentalement, Mountable est développé sur la base de l'Internet des objets, IoT, avec un système constitué d'outils de suivi, d'émetteurs de signaux, de sites web, et d'application. L'ensemble du système est intégré à l'aide du réseau LoRa, longue portée, une technologie sans fil à large flash, réseau étendu sans fil, avec une faible consommation d'énergie, de sorte à garantir une durée de vie de la batterie ayant jusqu'au 2 mois. Comparé aux appareils de communication tels que le walkie-talkie et similaires qui utilisent la communication par satellite, mon table présente de nombreux avantages. Entre autres, les coûts de production sont moins chers en raison de l'utilisation de la technologie d'Internet des objets. En outre, mon table est également équipée de direction, de suivi et de surveillance des grimpeurs, de systèmes d'urgence en cas de problème, de détection des conditions météorologiques, de systèmes en temps réel et de suivi de groupe pour déterminer s'il existe des membres appartenant à un groupe distinct. On espère que ce travail novateur permettra de surmonter les obstacles rencontrés par les alpinistes, notamment les égarements, les accidents et d'autres événements fatals, ainsi que les difficultés de communication entre les zones de montagne. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Yeah.
Seto avec 16 chansons intitulées Sebelum Cahaya ou en français Avant de la Lumière. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3,3-5 kHz et sur le site de www.voynews.id. Et cette fois-ci, je vais vous présenter la chanson religieuse d'Indonésie.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Cette fois-ci, je vais vous présenter la chanson religieuse intitulée Doa du groupe Ungu. Doa, ou en français prier, est l'une des chansons religieuses du groupe Ungu de l'album intitulé Surgamu. L'album a été sorti en 2006 et le premier album religieux de Ungu. Surgamu, ou en français votre paradis, révèle les espoirs et les prières d'un être humain au Créateur afin qu'il soit guidé sur le bon chemin. En outre, cette chanson nous invite à se rendre au Tout-Puissant. Bon, chers auditeurs, écoutons Ungu avec la chanson dont le titre est Doa, en français La Prière.
Yang kering dan hampa tanpa kasih atas kuasamu ku terlahir dan hanya padamu ku kembali. Thank you.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. C'est toute l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à l'onde courte de 3,3-5 kHz ou sur le site de www.voynews.id. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.